en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Merci, chère Chantal Delsol, de votre très aimable présentation. Madame le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Madame le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs les membres de l'Académie. Depuis des temps immémoriaux, Dieu et la religion semblent ne faire qu'un, comme s'il ne pouvait y avoir de présence divine sans la médiation de la religion, de sorte qu'en contrepartie, tous les excès commis au nom de Dieu seraient imputables à la religion, c'est-à-dire au fait qu'il existe des temples, des prêtres, des rites, des croyances. Pourtant, le XXe siècle a produit de nouveaux discours théologiques qui semble pouvoir se passer de la religion au sens traditionnel du terme, ce qu'on appelle le théologico-politique, très fortement lié aux guerres, en particulier à la Première Guerre mondiale, et aux folies politiques qu'elle a engendrées. L'idée du théologico-politique est apparemment simple. La politique se substitue à la religion pour assurer le salut des hommes, même si la politique peut prendre des formes très diverses, voire opposée, de l'État totalitaire à la négation radicale de l'État, c'est-à-dire la révolution, voire la révolution permanente. Mais, au principe, nous retrouvons une même idée, une phrase de saint Paul à la fois prise au premier degré et mécomprise. « Toute puissance vient de Dieu, qu'on peut aisément transformer sous cette forme. » Dieu est l'instance qui dispense la puissance aux hommes. Voire, de façon plus radicale encore, Dieu n'est rien d'autre que la dispensation de la puissance, rien d'autre que la puissance en tant qu'elle se donne et se dispense à la cantonade. Une puissance qui, au demeurant, peut se révéler obscure, violente, sauvage, sans aucune médiation et surtout pas celle de la religion. Une puissance qui, sous prétexte de régénérer le réel, le transit parfois jusqu'à sa destruction. Walter Benjamin, dans un court texte de 1921, intitulé « Critique de la violence », parle alors de violence divine dans une perspective apocalyptique, mais sans référence à la moindre religion. L'étude de Carl Schmitt de 1922 sur la théologie politique est en quelque sorte une réponse à ce texte de Benjamin. Carl Schmitt n'a pas inventé le théologico-politique, il a au contraire posé les conditions philosophiques et juridiques nécessaires pour canaliser la sauvagerie de cette violence, conditions qu'il a résumées sous le terme stoïcien de catéchon, l'arche politique et morale qui maintient l'ordre du monde institué et retarde le jugement dernier. Mais on est en droit de se demander si ce type de violence divine, quelle que soit l'interprétation qu'on en donne, peut se réguler, ou s'il n'est pas préférable de dissocier radicalement violence et théologie. On pouvait penser que ce discours apocalyptique du Dieu comme toute puissance qui se dispense de façon plus ou moins aléatoire et sauvage allait disparaître avec la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la chute du fascisme et du nazisme. Or, je ne crois pas que ce soit le cas. Je suis frappé de voir combien, au contraire, cette idée de la puissance qui se donne au monde et le transit ne cesse de revenir à travers la philosophie contemporaine, mais aussi à travers les sciences sociales. Simplement, aujourd'hui, il est de moins en moins question d'État. L'idée même de révolution s'estompe. Ce n'est plus le politique qui est le médiateur de cette dispensation de la puissance, mais l'économie, sous quelque forme qu'on entende cette notion d'économie, aussi bien libidinale chez le philosophe que financière chez l'économiste. Là est la nouveauté, ce que j'oserais appeler le théologico-économique. Il est une formule qu'un fameux économiste de la première moitié du XXe siècle, Joseph Schumpeter, a proposé pour rendre raison de l'évolution du capitalisme et de son système productif. Il a parlé de destruction créatrice, au nom de cette idée sans aucun doute paradoxale que la richesse n'est pas une affaire d'accumulation et de patrimonialisation, de construction et d'édification, mais de destruction, d'obsolescence programmée, de place nette et de table rase, ce qui n'est pas sans rappeler la violence divine de Walter Benjamin. Il faudrait aussi noter que le terme de « nomos » qui définit dans le vocabulaire non pas de la Grèce antique, mais bien de la philosophie contemporaine, qui définit cette dispensation tous azimuts de la puissance par quelque instance que ce soit, et bien que ce terme est utilisé par Gilles Deleuze aussi bien que par Carl Schmitt, par Friedrich Hayek aussi bien que par Martin Heidegger. Mais quelle est la place des religions face à ces singulières déviations contemporaines de la théologie? Les religions occupent une place ambiguë. D'un côté, elles peuvent se laisser emporter par la sauvagerie, fascinées par cette puissance absolue que Dieu semble vouloir communiquer aux hommes. Mais les religions sont aussi de très vieux savoirs qui s'y connaissent en matière de théologie et qui peuvent ainsi offrir des garde-fous contre l'ensauvagement, contribuant ainsi à apprivoiser ce qui apparaît pourtant immaîtrisable. Apprivoiser l'immaîtrisable ne signifie pas le maîtriser, comme l'espéraient ceux qui, au XIXe siècle, conjuguaient positivisme, scientisme et abolition des religions, mais seulement se mettre à sa mesure, l'assumer, ne pas en être emporté. Il y a de la religion parce qu'il y a de l'immaîtrisable, et tant qu'il y aura de l'immaîtrisable dans le monde, je ne vois pas comment on pourra négliger la question religieuse. Dans l'étymologie latine du terme « religion », nous trouvons deux significations distinctes. « Religion » vient certes du latin « religare », ce qui nous lie et relie à Dieu. La religion manifeste une conjonction de l'homme et de Dieu, et cette conjonction peut se transformer en fascination de la puissance si on considère que la religion nous fait participer à la toute-puissance de Dieu. Mais religion vient plus sûrement encore de relégere, relire. Coran, par exemple, veut dire en arabe la récitation, la lecture et relecture perpétuelle du même texte. En latin, il s'agit de relire pour vérifier et contrôler. Relégere marque l'attention aux choses, le scrupule que nous éprouvons à en user, et ce terme en latin s'applique aux scrupules moraux avant même qu'aux scrupules religieux, en particulier chez Cicéron, qui emploie à maintes reprises le terme de religio en ce sens moral, sans la moindre référence théologique. Il arrive même que ce scrupule prenne, chez Cicéron, un tour esthétique et non seulement moral, dans le sens de la délicatesse et du tact, à l'exemple de ce passage de l'orateur, où Cicéron parle de la religio ateniensium pour caractériser le bon goût rhétorique et esthétique des Athéniens. Face aux théologies sans religion de notre temps, Rome nous donne à penser ce que pourrait être, à la limite, une religion sans théologie. Quoi qu'il en soit, l'étymologie « relegere » apparaît première dans la langue latine. La religion romaine s'en trouve fortement marquée, elle qui illustre moins un lien qu'une retenue, et une retenue de la puissance même d'agir des hommes, comme en témoignent la place et la nature des rites dans ce type de religion. Et je reviendrai sur cette question du rite tout à l'heure. Toute religion, ou presque, repose sur quatre piliers. Le livre, deuxièmement la prière, troisièmement le culte et les rites, et enfin, quatrièmement, le sacrifice. Ce que l'on retrouve dans le paganisme aussi bien que dans le monothéisme, en Orient comme en Occident. Ces instances fondamentales de la religion n'ont pas la même signification selon qu'on les conçoit comme lien ou au contraire comme scrupule et retenue. Selon qu'on les conçoit comme participation des hommes à la divinité ou au contraire comme ménagement de la juste distance entre Dieu et les hommes, entre le principe et le monde. Espacement nécessaire pour nous permettre d'assumer ce qui, par essence, nous dépasse, notre provenance et notre destin. Alors, je commencerai par le livre. La philosophie de la Renaissance, de Raymond de Sebonde à Tommaso Campanella, distingue deux livres. Le livre de la nature, ce que la nature par sa présence et son activité même nous donne à comprendre de l'être et de son principe, puis un autre livre qui vient en second pour suppléer les difficultés de compréhension du premier livre, le livre de la révélation, les Saintes Écritures. Campanella identifie le livre de la nature au conamen universale, selon son expression, à la puissance de l'être qui transit le monde. Nous savons, depuis Kant et Schopenhauer, que tout ce qui est de l'ordre de la puissance, de la force, est indicible, incompréhensible, d'où la nécessité du second livre. Simplement, d'un livre à l'autre, du livre de la nature aux Écritures, la nature du sacré change du tout au tout. Nous passons du sacré de puissance au sacré de personne, c'est-à-dire nous passons de la participation au conamen universale à l'amour du Père, voire à celle plus complexe de la Trinité, qui se définit d'abord et avant tout comme la relation et l'accord indéfectible des trois personnes. Ce passage de la puissance à la personne nous conduit de la religion comme religare, comme participation et fusion de l'homme au tout et à son principe, au relégueré, à la religion comme respect et distance, comme respect de la distance. Les Écritures saintes ont quelque chose d'épistolaire. Elles sont de l'ordre de l'envoi, non pas donation de la puissance au monde, mais envoi d'une lettre à un destinataire. Une lettre qui, comme la plupart des lettres, donne des nouvelles, de bonnes nouvelles même, évangile, portées par des messagers, angelos en grec, songeons à l'archange Gabriel en roulant le Coran autour du cou de Mahomet. En tant que correspondance, les Écritures impliquent deux corollaires. Elles créent nécessairement de la personne, du « je » et du « tu », un expéditeur, le « je » du « je suis celui qui suis hein, » d'Exode 3,14, et un destinataire, celui à qui la lettre est destinée et qui, en tant que tel, a précisément un destin. Mais cette relation constitutive de la personnalité divine, aussi bien qu'humaine, postule elle-même une distance spatio-temporelle sans laquelle la relation épistolaire et l'envoi n'auraient pas lieu d'être. Lorsque l'on vit constamment côte à côte, de façon fusionnelle, on ne s'écrit plus. Distance temporelle radicale entre l'éternité de Dieu et la finitude humaine, distance spatiale radicale entre celui qui est partout et nulle part, Dieu, et celui qui est ici et pas ailleurs, l'homme. Je dirais simplement, sans avoir le temps de l'expliquer, que l'Écriture sainte, en tant qu'écriture avec une minuscule, est précisément ce qui ménage et met en scène cette distance et cette différence épistolaire constitutive de la religion comme rapport respectueux et scrupuleux, mais jamais idolâtrique, de l'homme à Dieu et par la médiation de Dieu, de l'homme aux autres hommes. Je vais passer maintenant au second pilier, la prière. La meilleure façon pour l'homme de répondre à cet envoi est la prière. Saint Thomas d'Aquin affirme que la prière l'emporte sur tous les autres actes de la religion. Elle exprime en effet de façon privilégiée le rapport de l'homme à Dieu dans toute son ambiguïté entre le sacré de puissance et le sacré de personne. En effet, la prière se présente le plus souvent sous forme de demande. J'obéis à Dieu et lui voue un culte pour que celui-ci satisfasse mes désirs. La prière prend alors une forme économique, « je donne pour que tu donnes », d'eau ou d'aise, qui transforme le rapport de l'homme à Dieu en champ d'échange et d'optimisation des conditions, le bonheur des hommes contre la gloire de Dieu. Sous cette forme, Dieu semble réduit au sacré de puissance et la prière elle-même à un acte magique d'évocation et de mobilisation de la puissance divine. Or, les religions prennent en général leur distance avec cette conception dite superstitieuse et populaire de la prière. Saint Thomas d'Aquin, par exemple, juge que la prière relève non du désir, mais de la raison et de l'intelligence. Kant, à son tour, avec le même esprit, considère dans son petit opuscule posthume sur la prière que la prière a la vertu de rendre, je le cite, « plus clair dans l'âme les représentations obscures et confuses, non pas de Dieu, mais de notre relation à lui, de leur donner un plus haut degré de vivacité et de conférer ainsi une plus grande efficience au mobile qui pousse à la vertu ». Je ferme les guillemets en soulignant ce dernier terme démodé. À travers la prière, Kant nous propose, si j'ose dire, et je vais utiliser à nouveau un terme stoïcien, une catalepsis du sacré qui rappelle ce que Pétrarque à son tour entend dans le Secretum par la prière sous sa plus haute forme de méditation spirituelle, de vie solitaire et d'ossium religiosum. La prière pour Pétrarque est une arme formidable pour lutter contre le relâchement spirituel et contre l'affaiblissement progressif des forces de l'esprit. Cette lutte suit, chez Pétrarque, trois étapes empruntées non pas aux évangiles, mais aux Tusculanes de Cicéron, qui servent ici de référence explicite à l'humaniste. La prière, chez Pétrarque, passe d'abord par la contentio, la concentration de l'esprit, dans son sens quasi-stoïcien de tonos, de tension de soi. Cette concentration doit contribuer, dans une deuxième étape, à notre consolidation, notre confirmatio, autrement dit, toujours dans un sens stoïcien, à la construction de notre citadelle intérieure, qui elle-même ménage et favorise la tenue d'un discours intérieur, un discours à la fois silencieux et articulé. Et je me permettrai une courte digression littéraire. Le silence, en tant qu'il est articulé, s'exprime chez Pétrarque par la murmuration, et c'est probablement sous cette forme qu'il faudrait dire sa poésie. Je reprends la question du sermo intérieur, qui est par excellence la prière et qui, à travers le rapport à Dieu, s'adresse d'abord à soi-même. Le sacré de personne auquel conduit la prière est ici moins lié à l'humanité de la personne divine qu'à la divinité de la personne humaine. Passons aux rites, porteurs eux aussi de la plus grande ambiguïté, semblant caractériser la plupart du temps les religions les plus superstitieuses, voire les plus magiques. Mais les rites peuvent prendre une toute autre signification, comme en témoigne l'une des religions les plus ritualistes dans l'histoire, la religion romaine. La notion de ritus, comme celle de religio, n'est pas à Rome originairement théologique. Le ritus des Latins, les Grecs l'appellent nomos, dans un tout autre sens que celui que j'évoquais au début de ma conférence. Le rite romain, c'est de l'institution, c'est du droit, ce qui institue juridiquement notre rapport au Dieu. La religion romaine est essentiellement, je vais être un peu provoquant, est essentiellement une question de droit constitutionnel et plus exactement de séparation et de relation des pouvoirs, et relation parce qu'il y a d'abord séparation. Cette séparation a lieu ici non pas entre le privé et le public ou entre le civil et le militaire, mais entre le profane et le sacré, entre ce que l'action des hommes peut maîtriser dans le cadre de leur organisation collective et ce qui dépasse le pouvoir de toute collectivité. La religion romaine a essentiellement pour but de créer un domaine de propriété réservé aux dieux, ce qu'on appelle la res divina, le patrimoine divin. Après le sacré de puissance, puis le sacré de personne, nous accédons avec Rome au sacré des choses. C'est par cette affectation d'un patrimoine aux dieux que les hommes rentrent en relation quasi-juridique avec ceux-ci et qu'ils réussissent à former avec eux une communauté. La res divina, c'est la res publica dans le domaine des relations entre les hommes et les dieux. Mais cette communauté est sans partage ni fusion, une simple communauté rituelle, le rite étant précisément ce qui crée du lien sans requérir de participation. Du sacré de puissance au sacré des choses, l'étau de la toute-puissance divine se desserre. Et s'acquiert sacré dans la religion romaine tout ce qui est considéré comme la propriété des dieux, et sacrilège l'atteinte à cette propriété. Le sacré n'est donc pas une force magique, mais une qualification juridique. C'est pourquoi la prêtrise est à Rome une magistrature, le rite n'étant rien d'autre ici qu'une procédure formulaire, comme dans le droit romain, dit par le magistrat-prêtre, qui assure et garantit le transfert de propriété des hommes aux dieux, autrement dit la consécration. Les biens consacrés aux dieux sont inaliénables, inviolables et imprescriptibles. La res divina de la religion romaine est à l'origine du régime juridique du domaine public de l'État. Ainsi, la religion romaine ne crée pas de lien personnel et sentimental avec la divinité, mais règle l'organisation collective et objective de la cité face à son extériorité immaîtrisable par un processus de transfert de propriété selon des règles formelles léguées par la tradition, en un mot, des rites. Et il n'y a de relation avec les dieux ici que dans le cadre de ces règles. Dans toute religion, en tant soit peu rituelle, se retrouve nécessairement, ne serait-ce qu'en partie, l'esprit du droit romain. Je terminerai cette brève et sommaire description des religions par ce qui constitue l'acmé du culte, de la cérémonie et des rites, c'est-à-dire le sacrifice qui nous permettra de mieux comprendre la question de la propriété divine ou de la part de Dieu, et du lien que cette affectation des biens crée entre l'homme et le ou les dieux. À cette fin, il faut revenir à ce qui est à l'origine des trois grandes religions monothéistes, le sacrifice d'Abraham. Tout le monde connaît l'histoire qui repose sur deux gestes fondamentaux, des gestes simples, mais aussi originaires et fondateurs de civilisation, la retenue d'une part, et la substitution de l'autre. La retenue, l'ange envoyé par Dieu, retient le bras d'Abraham, prêt à sacrifier son fils Isaac. Cette retenue permet dans un second temps à Abraham de substituer le bélier à son fils. Il existe évidemment nombre d'interprétations de cet acte fondateur des trois grandes religions monothéistes. Je vais proposer la mienne qui s'inscrit dans la lignée de ce que je viens de dire à propos de la religion romaine, car il me semble que ce sacrifice a lui aussi rapport à la res divina, au sacré des choses plus qu'au sacré de la puissance ou de la personne. Sacré de puissance, voire sacré de personne, qui aurait certainement ici exigé le sacrifice d'Isaac. La retenue exprime à mon sens l'auto-limitation par Dieu lui-même de sa toute-puissance. Par cette auto-limitation, Dieu crée un espace ouvert à la liberté de l'homme, mais surtout à son intégrité, à sa protection, qui autorise un commerce apaisé entre l'homme et Dieu, un commerce non superstitieux, affranchi de toute domination divine et de toute crainte humaine. Cette ouverture et cette détente de la toute-puissante, rendre possible à son tour la substitution de l'animal à l'enfant. La substitution exprime le fait que c'est l'homme qui, en définitive, décide, comme à Rome, ce qui est propriété humaine et ce qui est propriété divine. Que Dieu, pour reprendre la position même de saint Thomas, n'a pas nécessairement le dominium exclusif sur le monde, que tout ne lui appartient pas, mais qu'il revient à l'homme par certaines opérations de la raison, ce que saint Thomas appelle une super additio rationis, et cette substitution en est assurément une, qu'il lui revient donc de se ménager la propriété seconde du monde. Tout repose sur un chiasme. Isaac, qui comme tout être humain est sous la puissance de Dieu, a été finalement rendu à son père pour le plus grand bien de l'institution familiale, tandis que le bélier, initialement sous la puissance des hommes, comme tous les autres animaux selon la Bible, a été donné à Dieu. La substitution est un échange qui illustre la coexistence du dominium premier de Dieu et du dominium second des hommes, du dominium premier de Dieu comme auto-limitation, du dominium second de l'homme comme arche et protection. L'échange, la substitution n'est pas ici économique, selon le droit commutatif, mais politique, selon le droit distributif, qui attribue à chacun ce qui lui revient, non par nature, certes, mais précisément au nom du droit, au nom de la loi, au nom de l'alliance. En effet, par cette attribution, sont clairement distinguées l'une de l'autre, la part de Dieu et la part des hommes, c'est-à-dire est clairement séparée la potestas juridique et pratique des hommes de la potentia métaphysique de Dieu, séparation fondamentale qui conditionne toute autre séparation des pouvoirs. Je conclurai par deux brèves remarques. Première remarque. La religion ainsi définie comme scrupule et retenue et non comme participation est de l'ordre de la sanctuarisation plus encore que de la sacralisation ou de la sanctification. La sanctuarisation, c'est-à-dire la délimitation de lieux et la dilatation de moments qui ménagent aux hommes et aux choses un abri que j'appelle l'arche. La sanctuarisation préserve le sacré de sa face d'ombre, de la terreur qu'il est toujours susceptible de porter avec lui. Elle est la condition de la pacification de nos relations avec l'extériorité, aussi bien qu'avec les autres hommes. Sous cette forme, la religion œuvre pour la paix. Deuxième remarque, il apparaît enfin que cette religion, considérée ainsi que je l'ai faite ici, comme critique du théologico-politique, n'est pas une nouvelle religion naturelle, minimaliste et quasi-profane, moins encore un simple sentiment religieux résiduel qui accompagnerait ce que certains appellent la sortie de la religion, mais bien nos vieilles religions, toutes vêtues de leur panoplie complexe et sophistiquée, faites de dogmes et de rites, parfois surprenants, il est vrai, qu'il faut simplement relire sous la forme du relégueré et non pas du religaré. Merci de votre attention.
Conférence très, très riche et très synthétique. Je donne d'abord la parole à Xavier Darcos.
Merci beaucoup, Monsieur Kay. J'étais très impressionné par votre capacité à faire synthèse de sujets si, si complexes et de présenter de manière claire des problèmes très compliqués. La notion de sacaire, par exemple, que vous avez merveilleusement expliqué, ou le formalisme religieux romain, ces fonctionnaires que sont les sacerdoces romains, vous les présentez d'une manière absolument extraordinaire. Et il me semble en effet que la synthèse que vous présentez, montrant au fond que ce que vous appelez la sanctuarisation, c'est mettre de l'ordre dans ce qui est naturellement un chaos intime, s'associe à la définition aussi du religio premier, du mi religio est, comme disent les Romains, c'est-à-dire j'ai scrupule à faire ceci ou à faire cela. Et justement, je voudrais revenir sur l'étymologie compliquée de religio, c'est un sujet presque infini. Il me semble que dans la polémique, si je puis dire, entre Tertullien et Cicéron, il me semble que saint Augustin avait apporté une réponse qui irait dans le sens de ce que vous dites et que vous n'avez, me semble-t-il, pas évoqué. C'est-à-dire que lui, il reprend en effet le « ré légueré », mais en insistant sur le « ré ». C'est-à-dire qu'il s'agit vraiment de relire, et par là de « réélire ». Il fait alors un jeu de mots très compliqué. Il dit « nous avons été négligentes, nous avons été négligents, nous ne lisions pas bien ». Et il faut désormais apprendre à relire, lire, pour trouver un sens, c'est-à-dire faire un choix, faire une élection. Et en conséquence, il ne peut pas y avoir d'atteinte de capacité à atteindre Dieu sans avoir fait ce choix sur soi-même. Et il me semble qu'au fond, si je puis dire, saint Augustin et Kay, même combat, parce que vous avez exprimé, au fond, la même idée. Alors, est-ce scrupule chez vous ? Est-ce qu'il vous était religieux de ne pas citer saint Augustin, ou est-ce que c'est volontairement que vous n'avez pas fait allusion à cette passage célèbre de la Cité de Dieu, chapitre 10:3. Mais je le répète, c'est vraiment pour vous poser une question de détail, et je vous félicite encore de cette superbe synthèse.
Merci. Monsieur Jean Ménard.
Merci, Madame le Président. Alors voilà vraiment une communication sur laquelle il est difficile de s'arrêter à brûle pour point, parce que il y a tellement de réflexions qui sont appelées par cette communication qu'on pourra trouver tout ce qu'il y a à dire en attendant quelque temps. Eh bien, j'attendrai ce temps, mais il y a quelques remarques très rapides que j'oserais faire d'abord. J'ai apprécié, comme Monsieur Darcos, ce qui a été fait par vous sur l'étymologie, sur les mots, parce que les mots sont la clé de tout le reste. Et vous dites, maintenant, nous avions deux étymologies de religion, ce que tout le monde ne sait pas, même ici. Nous en avons eu une troisième. J'en donnerai une quatrième avec un autre préfixe à léguéré. Ce serait interléguéré. Et à ce moment-là, c'est l'intelligence elle-même qui intervient. Intelligence en un sens qui est matériel. L'intelligence, c'est le fait de lire entre les lignes, c'est-à-dire de dépasser l'écrit, de dépasser ce qui est explicite. Je crois que là encore, il y a quelque chose à faire. Alors, vous avez, dans un autre registre de comparaison des mots, rappeler la distinction faite par les gens de la Renaissance entre les livres et la nature. Eh bien, je crois qu'il est intéressant de souligner que un siècle après la Renaissance, au temps de Pascal, par exemple, il y a de nouvelles enquêtes qui sont faites en ce sens. De nouveau, lorsque Pascal parle des livres et de la nature, c'est d'autres choses qu'il parle. Et les livres, c'est ce qui est. Il oppose à la nature, à la raison. Et la raison, c'est ce qui fait les livres. Et au contraire, la nature, c'est ce qui fait l'esprit. Donc il faut remonter à l'esprit lui-même pour se trouver dans la vérité. Et la réflexion consiste dans une large mesure à passer de ce qu'on a appris dans les livres à retrouver l'esprit initial. Dernière remarque concernant le rapport que vous avez établi entre religion et droit, notamment à propos de la religion romaine et de la religion catholique. Oui, je crois que c'est une remarque très intéressante, mais qu'il faut particulariser ce qui est dû à l'influence du droit romain, c'est essentiellement saint Thomas d'Aquin. C'est le thomisme. Au contraire, tout ce qui relève de saint Augustin et de la patristique, en gros, la patristique, relève de l'héritage grec. De l'héritage grec, et c'est tout autre chose à ce moment-là qui se présente. Aussi bien l'aspect social. L'aspect social et la domination, la maîtrise de la société est beaucoup plus importante dans le catholicisme que dans des formes plus, apparemment plus primitives, mais en fait plus religieuses de la nation. Je m'arrêterai là.
Merci, Monsieur Ménard. Georges-Henri Soutou.
Madame le Président, merci. Moi aussi, j'avoue avoir été extrêmement frappé par votre communication et je ne suis pas capable de réagir totalement, d'autant plus que je suis un peu loin de mon domaine habituel. Néanmoins, je voudrais vous interroger, puisque vous avez parlé de la religion romaine, il se trouve que je suis frappé comme historien de la coexistence dans le même espace culturel, pour finir, et même politique, parce qu'au fond l'Empire romain c'est une fédération de cités romaines, enfin latines et grecques, et il me semble qu'il y a des différences entre les deux modèles religieux. Le templum romain, c'est pas exactement la même chose que le temple grec, même dans sa préparation, d'après ses rites, et peut-être surtout le magistrat romain, par son caractère sacré qui a été rappelé, à mon sens, enfin je me trompe peut-être, se distingue quand même radicalement du magistrat grec. Alors, est-ce qu'il faudrait interpréter cela Mais ça me paraît très difficile, en disant que la res divina, le domaine divin que vous avez expliqué, est une caractéristique romaine qui n'existe pas dans l'univers grec, ce qui, à première vue, me paraît trop simple comme différence. Je pense qu'il y a quand même une forme de domaine divin chez les Grecs. Mais est-ce que ce que nous appelons transcendance, même si le mot n'a pas le même sens, bien sûr, à l'époque, ne permet pas d'expliquer cette profonde différence, une fois de plus, me semble-t-il, de compréhension de ce qu'est la magistrature politique à Rome et à Athènes? On a deux types politiques tout à fait différents. Est-ce que la notion de res divina suffit à expliquer cette différence? Je vous remercie. Je crains que ma question soit un peu complexe, mais enfin, c'est la matière qu'il aime. Merci beaucoup.
Merci. Bernard Bourgeois.
Merci, Madame le Président. Je voudrais vous poser une question. Vous avez peut-être trouvé curieuse et avec raison. Qui est la suivante. L'ambiguïté du terme religion, relier et relire, n'exprime-t-elle pas, à sa relecture, la totalisation nécessaire ou l'identification absolue des deux sens, comme si le vrai lien exigeait sa relecture, c'est-à-dire deux moments de la révélation divine à l'homme, le second supposant, mais achevant aussi bien au sens négatif qu'au sens positif du terme, le premier, comme si la vraie religion n'exigeait pas, au fond, deux testaments.
Merci. Rémi Brague.
Merci, Madame le Président. Je vous remercie, bien entendu, comme tout le monde, pour votre communication. Je m'attacherai à son titre. Lorsque j'ai reçu la notification du fait que vous alliez donner cette conférence, je me suis demandé s'il n'y avait pas eu une faute d'impression et si on n'avait pas voulu dire, en fait, la théologie comme critique des religions sauvages. Et bon, je suis évidemment tout à fait intéressé par le fait que vous ayez anticipé un peu sur le paradoxe que j'aurais voulu signaler, en ce sens que si une théologie est sauvage, est-ce que c'est encore une théologie ? Est-ce que le mot de théologie sauvage rend justice, bien puisque nous parlons beaucoup de mots et d'étymologie, ou logos, qui plastronne, si je puis dire, dans le mot théologie. En d'autres termes, le théologico-politique sur lequel vous avez beaucoup insisté représente un stade antérieure, peut-être logiquement, mais en tout cas chronologiquement, à la naissance d'une théologie, puisque le théologico-politique, eh bien, c'est cette indistinction du sacré et du politique que l'on trouve, bon, par exemple, dans la religion romaine, mais pas seulement chez elle. Alors, je me demande si on ne pourrait pas plutôt, justement, rétablir le bon ordre des concepts dans votre titre et faire remarquer que, une religion se désauvagise, enfin se civilise, si je puis dire, lorsqu'elle passe par l'attitude d'esprit qui permet la fabrication d'une théologie. Et par exemple, dans la mesure où elle se détache de pas mal des quatre éléments que vous avez distingués, à savoir à partir du moment où le livre cesse d'être un dernier mot, si j'ose dire, mais ne fait sens qu'à partir de son interprétation. à partir du moment où le sacrifice devient, enfin cesse d'être sacrifice sanglant pour devenir sacrifice logique latreia, puisque nous sommes en antiquisant, enfin, donc ce qu'on a traduit par sacrifice de l'intellect, le génitif étant évidemment un génitif subjectif. Enfin, c'est l'intellect qui offre le sacrifice, ce n'est pas l'intellect qui est l'animal que l'on exécuterait. Donc voilà, je me permets de demander si on n'aurait pas intérêt à rétablir ce que j'ai imaginé dans ma grande naïveté comme étant le titre réel de votre exposé.
Merci. Jean-Claude Trichet.
J'ai trouvé, comme tous nos collègues, l'exposé absolument remarquable. J'ai trois questions. Je m'interrogeais sur le point de savoir s'il ne fallait pas mettre la prière avant le livre. Pour une raison très simple, c'est que la prière, c'est une poésie qu'on répète, qu'on récite inlassablement. Et la poésie a probablement précédé l'écriture, en tout cas c'est ma conviction intime. Si tel était le cas, alors la prière aurait précédé le livre à proprement parler, et l'étymologie relegere alors serait probablement l'étymologie supérieure, chronologiquement. Et donc c'est une interrogation. Deuxième question. Sur le sacrifice, j'aurais voulu simplement savoir comment vous vous situez par rapport aux thèses très originales de René Girard, si vous avez un sentiment sur ce point, et si elles ne sont pas trop simplistes ou trop systématiques. Mais je dois vous dire que je connais beaucoup de personnes dans mon entourage, et moi-même d'ailleurs, qui ont été très très séduits par les thèses de René Girard comme... étant une relecture du christianisme très, très impressionnante. Et enfin, une dernière question un peu saugrenue, que Madame le Président me pardonnera. Est-il vrai que l'égalité homme-femme est essentiellement un héritage de la du droit romain, disons, peut-être de la religion romaine, mais à tout le moins du droit romain, et pas du judéo-christianisme, en tout cas à ses origines?
Merci. Je... me permettre de poser deux petites questions avant de vous laisser la parole. Que pensez-vous des thèses du courant radical orthodoxie à propos de la violence religieuse qui réduit pratiquement les violences religieuses sur notre continent, en tout cas des violences politiques ou, est-ce que c'est une volonté de défendre la religion qui ne serait pas vraiment assise sur des fondements stables ou... J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et deuxième question, rapidement, que pensez-vous je parlerai plutôt de religions sauvages, comme dit Rémi Brague, modernes, qui sont au fond des religions sans Dieu, des religions réduites à la morale. Si on veut faire un raccourci saisissant, on parle de Tolstoï, le Jésus de Tolstoï, au fond, qui est devenu une sorte de mythe, jusqu'au texte de Pierre Hadot. Où classez-vous cela ? Ah, il y a deux questions. Excusez-moi. Monsieur Fumaroli.
Je voulais simplement insister sur une des composantes de votre description du religieux. Et je viens de lire un livre que la presse n'a pas jugé bon de signaler, alors que c'est un chef-d'œuvre, de mon ami Roberto Galasso, qui s'appelle L'Ardeur, et qui, en quelque sorte, médite sur cet extraordinaire ensemble de textes religieux qui sont apparus en Inde à la fin du deuxième millénaire. Et il montre que dans ces textes, il s'agit essentiellement de rites. Cette grande religion, qui d'ailleurs a disparu, mais qui a laissé des traces dans l'hindouisme, fait du rite, et de l'exactitude parfaite et immuable du rite, le principe non seulement du religieux, mais aussi du politique, du moral, enfin, ce sont les gestes du rite qui sont l'élément dans lequel l'humanité échappe à la disparition, au temps qui coule, comme le dit Héraclite, mais qui trouve en quelque sorte un point d'ancrage. Et j'ai trouvé ce livre superbe. Je ne suis pas du tout indianiste. Malheureusement, il semble que cette tradition indianiste somptueuse qui caractérisait la France soit relativement interrompue. Et alors que tous les autres livres de Roberto Calasso ont été accueillis avec beaucoup de ferveur par la critique française, la personne n'a osé décrire un mot. Or, c'est un livre très clair, très convaincant, et qui, en fait, élargit votre propos hors de la sphère méditerranéenne. Donc, je conseille à nos confrères d'y jeter un coup d'œil, ils le méritent.
Merci, monsieur. Et il reste encore une question de Madame Delmas Marty.
Merci, Madame le Président. Merci beaucoup à notre communicant. C'était impressionnant de vous écouter et je dois dire que j'éprouverai le besoin de vous relire pour bien assimiler tout ce que vous avez dit. Cela étant, il y a une question qui m'est venue, peut-être tout à fait naïve, peut-être tout à fait hors propos, mais je vous la livre tout de même. Quand vous avez utilisé cette belle formule « apprivoiser l'immaîtrisable », pas le maîtriser, mais l'assumer, ça m'a fait penser, dans le domaine du droit, à deux questions contemporaines qui ont peut-être à voir avec votre sujet. En tout cas, c'est la question que je voudrais vous poser. C'est le domaine des droits de l'homme, d'une part, qui effectivement tente d'apprivoiser l'immaîtrisable, ne le maîtrise pas, mais essaye de l'assumer. Et puis le domaine de l'environnement, le droit de la nature, le droit de l'environnement, la montée en puissance d'un nouveau sujet juridique qui serait la nature, mais dans un sens tout à fait particulier. Donc voilà, je voulais vous demander si ces deux domaines pouvaient entrer dans votre propos. Merci.
Merci beaucoup. Voilà, je vous laisse la parole. Vous répondez dans l'ordre qui vous arrange, selon l'organisation de votre pensée.
Merci, Madame le Président. Je vais répondre dans l'ordre, selon le principe même de ma réflexion. Et donc, je commencerai par Monsieur le secrétaire perpétuel, qui a posé effectivement la question essentielle de l'étymologie, du sens des mots, qui, à mon sens, est l'établissement même de la question religieuse. Et vous avez, à très juste titre, introduit la troisième signification, choisir. Et cette troisième signification explique d'une certaine façon comment l'Empire romain est passé de sa vieille religion sans choix à la religion, à la nouvelle religion, à la religion catholique, chrétienne, qui effectivement est l'effet d'un choix, comme le montre au demeurant la conversion de Constantin sur son lit de mort. Un quatrième sens a été évoqué par M. Jean Ménard, qui est celui de l'interprétation. Et l'interprétation, pour moi, fait cause commune avec le livre. C'est la vie du livre. Et les religions du livre, il n'y a pas une extériorité du livre dans l'interprétation. C'est une refondation, en quelque sorte, une refondation permanente du livre. Voilà. Donc, en quelques mots, pour régler ces questions d'étymologie. Alors, je voudrais aussi répondre à certainement la critique la plus frontale qui a été faite à mon exposé. Je vous en remercie. C'est le sens du débat philosophique, à savoir qu'il fallait renverser les choses, parler de religion sauvage plutôt que de théologie sauvage, et faire de la théologie, de ce savoir extrêmement complexe, c'est lui aussi ô combien ambigu, de faire de la théologie le savoir critique des religions. Alors je dirais deux choses. D'une part, ce théologico-politique que je définis comme l'expression de la théologie sauvage, c'est une chose récente. Alors, beaucoup d'interprètes, beaucoup d'historiens essaye de faire remonter cette histoire du théologico-politique à l'époque de Constantin, voire avant. Mais la réalité, c'est que ce terme a véritablement émergé dans la culture intellectuelle et philosophique qu'au début du XXe siècle, avec le texte de Benjamin de 1921, avec le texte de Carl Schmitt de 1922, avec les écrits d'Ernst Kantorowicz de 1927. Je suis, pour ma part, extrêmement frappé par ce moment très réduit où a commencé à émerger cette problématique du théologico-politique en dehors des religions et, comme vous le savez, dans une ambiance de crise européenne extrêmement violente et quasi apocalyptique. Donc il y a un moment théologico-politique qu'il faut assumer et dont je ne suis pas sûr que l'histoire de l'Europe soit totalement affranchie. Et le deuxième point, c'est vrai, nous sommes frappés aujourd'hui par des comportements religieux brutaux. Nous l'avons évoqué, Madame le Président l'a évoqué aussi à propos de la critique faite par les mouvements orthodoxes de la situation contemporaine. Mais il est aussi frappant de voir que la culture religieuse de ces mouvements est assez pauvre. Et qu'en revanche, la fascination de ces mouvements pour les logiques contemporaines de la puissance, logique financière, logique politique, logique financière, que cette fascination est extrêmement forte. Où est la religion? Où est la théologie? La fascination de la toute-puissance, ou pour le dire, la fascination de la toute-puissance. Alors je ne parle pas de théologie, mais je parle de perversion de la théologie dans les théologies de la toute-puissance. Et je ne suis pas sûr que les historiens de la théologie aient pris toute la mesure des difficultés que pose la notion de théologie de la toute-puissance. Et je remercie l'académicien qui, ici, a cité saint Thomas d'Aquin pour dire à juste titre que saint Thomas d'Aquin avait réintroduit un peu de droit dans toute cette affaire-là. Et c'est une chose qui me semble bien nécessaire, sur laquelle j'ai beaucoup insister. Alors sur la question du droit, il y a évidemment ici d'éminentes sommités qui pourraient mieux expliquer que moi ces choses. Mais ce que je trouve remarquable et ce qui, à mon sens, effectivement, distingue Rome peut-être des autres civilisations, c'est le fait que cette question de la part de Dieu et de la part des hommes est étroitement lié à la question de la séparation des pouvoirs, en sachant à Rome que la notion de séparation des pouvoirs à Rome n'est pas simplement une simple séparation technique entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, c'est pas ça la question. C'est une séparation générale des pouvoirs entre le civil et le public, entre le civil et le public, entre le militaire et le civil, entre le sacré et le profane. Et ce travail admirable de séparation des pouvoirs que le droit romain a accompli est en quelque sorte l'équivalent dans l'ordre civil de la cité, ce que les Écritures ont défini par la séparation du ciel et des eaux. Alors je crois que René Girard. René Girard. Alors, vous me direz si j'ai une vision un peu schématique de René Girard, mais l'idée de René Girard, c'est celle-ci, me semble-t-il. La croix est le sacrifice ultime et définitif qui libère le monde, les civilisations à venir, de tout régime sacrificiel. Je ne suis pas sûr aujourd'hui, en lisant la presse, que nous ayons totalement affranchis des logiques sacrificielles. Et le théologico-politique ne manque pas de logique sacrificielle. Je serai donc beaucoup moins optimiste que René Girard sur ce point. Et c'est pourquoi je suis très attentif au conseil de lecture que Marc Fumaroli a a bien voulu me faire, en revenant à l'origine du rite, c'est-à-dire à l'origine de ces procédures formulaires qui nous maintiennent dans la séparation, dans la distance. Et qui, me semble-t-il, est une question essentielle. Et les processus de désinstitutionnalisation que connaissent nos sociétés sont des processus liés aussi à la perte de l'intelligence des rites. Les deux questions sont étroitement liées. Alors,
je crois que Jean-Claude Trichet voulait préciser quelque chose, si vous voulez bien.
Vous me demandiez. Je partage évidemment le sentiment que vous avez exprimé, mais il me semble qu'il y a une autre dimension dans cette thèse très originale de René Girard, c'est que la religion chrétienne serait, selon lui, la première qui affirme avec beaucoup de force que le bouc émissaire est innocent.
Oui.
Et c'est cette innocence affirmée du bouc émissaire qui me semble être l'une des dimensions importantes de la césure entre les religions d'avant et sa thèse, et la religion chrétienne. Et c'est sur ce point-là, peut-être, que j'aimerais aussi avoir votre sentiment.
Oui, sur la théorie. Alors, j'ai fait une triple distinction. J'ai distingué le sacré de puissance, du sacré de personne et du sacré des choses. Bon, ce qui me reconduira au droit de l'environnement, in fine. Il me semble que la lecture de René Girard, et qui me semble une lecture juste, inscrit la religion chrétienne dans le sacré de personne. Avec ce moment limite. Ou d'une certaine façon, au moment où l'on croit revenir au sacré de puissance, on s'en libère définitivement. C'est ainsi que je lirai la crucifixion, la passion du Christ. Ce moment limite entre le sacré de puissance et le sacré de personne. Et cette rédemption qui se fait au nom de l'amour et non pas au nom de cette puissance universelle que l'on peut imaginer, par exemple, dans ce culte que les soldats romains ont pratiqué, en particulier sur le front asiatique, le taurobol de Mitra, qui marque, à mon sens, l'absolu du sacré de puissance. Donc il y a du sang, évidemment, dans la crucifixion, dans la passion du Christ, il y a du sang, mais ce sang, en quelque sorte, efface et non pas intensifie. C'est plutôt de l'ordre du retrait que de l'ordre de l'intensification, comme dans le culte de Mitra. Mais comme vous le voyez, nous sommes sur des points frontaliers, avec des proximités extrêmement fortes des cultes. Voilà. Alors, il me semble que, si l'on veut bien comprendre la thèse de René Girard, il y a ce travail préjudiciel, ce travail antérieur de distinction du sacré de puissance et du sacré de personne, de l'intensification de la toute-puissance d'un côté et du retrait, de l'effacement de l'autre. Voilà. Merci. Et je terminerai sur les questions de...
Il y aura une toute
dernière
question.
Mais j'aimerais...
Non, c'est-à-dire que j'espérais que Rémi Brague traiterait la question de l'islam que j'aborde en me soumettant, bien entendu, aux réflexions qu'il pourrait donner en plus de la mienne. Vous avez employé l'expression « religion du livre ». C'est une expression d'origine musulmane et que nous employons dans un sens qui est absolument différent du sens que l'islam lui a donné. N'est-ce pas ? La religion de livre, c'est la religion de ceux qui ont des textes législatifs, et ceux qui n'ont pas des textes législatifs, comme les hindous ou les noirs, eh bien ceux-là, ils n'ont pas droit au statut de religion de livre, c'est le statut de dhimmi. C'est tout ce qu'il y a à dire, le statut de dhimmi, qui est celui des religions de livre, comme les zoroastriens ou les sabéens, avec les juifs et les chrétiens. Bon. Première remarque. Deuxième remarque, je suis un peu étonné quand vous avez donné la même importance au sacrifice d'Abraham dans l'islam et dans le monde juif et chrétien. J'ai vu récemment une réflexion sur les Sams qui disait, mais de façon assez intéressante, à mon avis, que les Sams étaient moins une religion abrahamique qu'une religion adamique. Hein, parce que c'est tout homme qui naît homme, n'est-ce pas, est soumis à Dieu qui a consenti à lui donner une loi. Et l'histoire d'Abraham est évidemment un épisode, mais assez peu reconnaissable par rapport à l'épisode authentique et reçu authentiquement par les Juifs, bien entendu, et par les chrétiens. Alors, voilà, c'est ma question. Où est-elle la séparation de l'islam qui veut dire soumission, et soumission absolue? Alors, je voudrais que Bragg reprenne avec plus de science ce que je viens de dire. Merci.
Bon, cette fois, allez-y.
Alors, je réponds à Alain Besançon, et puis j'aimerais tout de même, parce que vous avez bien deviné que j'avais une certaine passion du droit, j'aimerais tout de même répondre aux questions de Mireille Delmas-Marty, in fine. En ce qui concerne l'islam, bon, vous avez... J'ai eu très souvent l'occasion de sillonner la Méditerranée et de participer, de façon lointaine certainement, aux innombrables fêtes du mouton qui marquent clairement le lien abrahamique de cette religion. Bon, ça, c'est un point bon, presque sensible hein, lorsque l'on parcourt ces pays. Alors c'est vrai, la question du livre est une question complexe. Nous avons abordé le lien du livre et de son interprétation. Il est sûr que à chaque fois le livre n'a pas exactement la même fonction, et nous savons qu'il y a des livres en dehors des religions monothéistes. Ce n'est pas simplement une spécificité. Le livre sacré n'est pas simplement une spécificité des religions monothéistes. Ce qui m'intéresse dans cette notion du livre, c'est la question de, comme je l'ai dit, de l'écriture, de fait que quelque chose est transmis à travers l'écriture, en tant que l'écriture, à mon sens, crée une certaine médiation à la fois temporelle certainement, et aussi spatial. Et je voudrais conclure sur les questions de droit, sur les questions de droit de l'homme et de droit de l'environnement, et je répondrai très simplement, effectivement, ces notions que vous évoquez, j'ai essayé de les résumer en un seul terme, ce que j'ai appelé l'arche, ou la sanctuarisation. Et pour moi, j'ai montré que cette notion, finalement, s'était construite à travers le droit et qu'elle revient aussi au droit. Voilà, donc c'est ce jeu entre le droit, la religion et finalement l'avenir de l'homme et de la terre que j'ai essayé d'exprimer entre les lignes interléguérées que j'ai essayé d'exprimer dans ma communication.
Merci beaucoup de ce magnifique exposé qu'on sera tous très heureux de relire. La séance est levée.